Bien, quand on parle de dernier, on arrive toujours un peu trop tard. Beaucoup a été dit. Qu'est-ce que l'on pourrait retirer de toute cette journée ? D'abord, Monsieur le Président, qu'en mars 2012, vos compagnies avaient organisé à la Cour de cassation un important colloque entre magistrats, entre avocats et experts, colloque qu'il avait intitulé « L'expertise, espace de compréhension ». Compréhension. Moi, je crois d'abord qu'il faut retenir le mot « compréhension ». Compréhension par le justiciable, d'abord, que l'expert n'est pas l'expert des parties, mais l'expert du juge. Nous ne sommes pas dans les pays de common law. L'expert est l'expert du juge. Ça, les parties doivent le comprendre. Deuxième compréhension, résultant de la première, de la part des experts, c'est que l'expert, ayant conscience qu'il exerce un véritable assessorat judiciaire, doit être habité par trois vertus, je dirais, théologales. L'exigence d'excellence, car l'expertise, ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas de l'acceptable, ça doit être de l'excellent, parce qu'il s'agit de la justice. Deuxièmement, que l'expert doit être habité par le souci du contradictoire, car il s'inscrit dans un procès où il y a des parties. Et qu'enfin, l'expert doit être habité par une impartialité absolument insusceptible de critique. Impartialité subjective, mais impartialité objective par l'image qu'il renvoie, par la délicatesse qu'il doit manifester à l'égard des parties et par le sens de l'écoute qui doit être le sien. Et puis, dernier stade de la compréhension par les magistrats. La compréhension par les magistrats des servitudes de la fonction expertale. Et au premier rang de ces servitudes, il y a cette problématique qui nous réunit aujourd'hui, qu'est la problématique de la rémunération de l'expert. Alors, pendant longtemps, le juge s'en est très peu occupé, comme si la préoccupation de questions mercantiles était quelque chose de plus ou moins honteux. Le juge allait-il s'abaisser à s'occuper des problèmes d'argent ? Passer auprès de mon ouvreuse, elle s'occupera de recevoir votre rémunération. Non, on ne peut pas s'en désintéresser. On ne peut pas s'en désintéresser, vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, l'expertise en France est en situation de crise. Et nous, magistrats, nous avons le sentiment que d'excellents professionnels renoncent à exercer cette activité au service de la justice et que nous constatons, dans un certain nombre de branches d'activités professionnelles, une désertification inquiétante. Nous avons actuellement le départ, comme dans la magistrature, du baby-boom d'un certain nombre d'experts, je pense aux experts psychiatres. Regardez actuellement dans nos cours d'appel les vagues qui viennent remplacer les experts psychiatres qui s'en vont. Cela est tout à fait inquiétant. Donc, un magistrat qui ne s'occuperait pas des voies et moyens par lesquels l'expert est rémunéré, eh bien, est un magistrat qui ne se préoccuperait pas de ce que doit continuer à être l'expertise dans notre pays. Alors, ceci dit, il y a ce problème du juste prix. Oui, l'expert peut prétendre être rémunéré au juste prix. Est-ce que le juste prix judiciaire peut être le juste prix du marché ? Est-ce que l'on peut courir derrière le mercato de l'expert qui, dans son activité privée, est payé à un tarif important. On évoquait le cas de ces comptables de sociétés qui sont payés à des tarifs extrêmement importants. Et doit-on, évidemment, exiger que l'expert judiciaire eh bien, soit payé à la même hauteur ? Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. L'expertise judiciaire, cet assessorat judiciaire, ne pourra jamais être payé à la même hauteur que l'activité libérale de l'homme de l'art auquel nous faisons appel. Alors oui, je suis de ceux qui pensent, en effet, qu'être expert au service de la justice, ce n'est pas quelque chose de banal, que c'est quelque chose qui représente dans le statut professionnel d'un homme de l'art quelque chose de notable. Néanmoins, c'est vrai, nous devons nous approcher le plus possible de ce qui est en droit d'attendre tel ou tel technicien vis-à-vis de la prestation qu'il va apporter au service de cette justice qui, encore une fois, exige de lui l'excellence. Alors, on arrive à la première difficulté, La première difficulté, c'est la pétition de principe extrêmement alléchante, extrêmement séduisante, à savoir qu'au début des opérations, éliminer l'itiste, éliminer de l'expertise, une provision doit correspondre le plus possible, le plus près possible, à la facturation définitive. Et de dire, et ça a été dit ce matin avec beaucoup de conviction, comment peut-on prétendre fixer une provision initiale dans le brouillard souvent dans lequel nous nous trouvons? Et il y a des phrases de Mme Menotti extrêmement pertinentes dans le rapport écrit que vous avez entre les mains, indiquant notamment que dans le cadre notamment de la procédure de référé, il faudrait véritablement que le juge des référés soit Mme Soleil pour, au moment où il va fixer sa consignation, deviner dans le détail quel va être le déroulement de l'expertise. Néanmoins, le justiciable est en droit d'exiger un minimum de prévisibilité. Le justiciable au civil, c'est lui qui va payer la facture. Alors je sais bien que la plupart du temps, c'est celui qui succombe, bien que, et ça a été rappelé avec raison, rien n'impose au juge de ventiler entre les parties, y compris la partie qui n'a pas perdu le procès, une partie du coût de cette expertise, bien sûr. Alors, oui, on va avoir beaucoup de difficultés. Oui, on va avoir beaucoup de difficultés, et cette difficulté, elle n'est pas passée inaperçue en 1977, lorsqu'il y a eu la conférence de consensus entre la Cour de cassation et la conférence des premiers présidents. Ce problème-là, il a déjà été abordé. Et qu'a dit la conférence de consensus en 2007? Elle a dit, bien voilà, je vous préconise une bonne pratique. Je vous préconise une bonne pratique qui consiste à opérer cette fixation initiale en deux temps. Premier temps, une ordonnance. Une ordonnance qui fixe une provision initiale, avec un calendrier. Et puis, cette ordonnance et ce calendrier, eh bien, ça va être discuté entre les parties au cours d'une première réunion. À l'issue de cette première réunion, on reviendra devant le juge en indiquant que le calendrier peut être tenu ou ne peut pas être tenu, doit être allongé ou ne peut pas être allongé, et surtout que cette première réunion a fait apparaître la nécessité de telle ou telle investigation qui éventuellement exige la fixation d'une provision complémentaire. Et c'est là, dit la conférence de consensus, à l'issue de cette seconde saisine du juge, que le juge pourra ajuster par une ordonnance de provision complémentaire, eh bien, sa provision initiale, les deux devant approcher le plus possible la facturation de l'expert. Alors voilà, c'est une piste avec toutes les difficultés. Moi, je suis de ceux, en effet, qui pensent qu'un contact avec l'expert est nécessaire. Et on parlait tout à l'heure de ce coup de téléphone, on parlait tout à l'heure de cette rencontre, on parlait de l'initiative intelligente d'un juge d'instruction qui, dans une affaire comptable difficile, financière difficile, eh bien, demande à celui qu'il pressent comme expert de voir un peu les pièces qui vont devoir être exploitées pour qu'il puisse avoir une idée de ses investigations et fixer la hauteur des diligences et par voie de conséquence de sa rémunération. Mais on n'échappe pas au débat d'aujourd'hui. Est-ce que l'on doit, d'une manière nationale, barémiser les expertises judiciaires? Vous avez des gens qui le soutiennent. En disant, on est devant un tel manteau d'arlequin à travers les 163 tribunaux de grande instance de France, qu'il faut barémiser les expertises judiciaires. Alors on arriverait, si on les suit bien, à une espèce de cotation de l'expertise, comme le sont les actes médicaux par la sécurité sociale. Je pense que c'est une vue de l'esprit. Et c'est une vue qui ne représente pas l'esprit de la loi. L'expertise, elle est spécifique, de même que chaque affaire judiciaire est spécifique. La fuite d'eau que vous évoquez dans la centrale nucléaire et la fuite d'eau de la voisine ou du voisin du dessus, c'est de nature différente. On ne peut donc établir un barème impératif. Et lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, vous avez cité tout à l'heure la jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de 2012, s'est hasardée à établir un barème impératif, elle a immédiatement été sanctionnée pour la simple raison, c'est que l'autorité judiciaire ne dispose pas du pouvoir réglementaire qui appartient, vous le savez, aux organes exécutifs ou législatifs. on ne peut pas, nous juges, fixer des barèmes impératifs. Par contre, nous avons toute latitude, et je suis un fervent partisan de cela, d'établir des barèmes indicatifs. Bien évidemment, on n'a pas des barèmes pour toutes les expertises, ça serait complètement idiot. Des barèmes qui sont établis branche d'activité par branche d'activité. Je vous engage à aller sur Google et aller voir le barème de la Cour d'appel de Bordeaux, présidé par Madame Chantal Bussière, qui a animé, et vous en étiez, Monsieur le Président, cette commission qui faisait le point avec le procureur général Autain sur l'état de l'expertise en France. Vous avez dans la Cour d'appel de Bordeaux un barème, branche d'activité par branche d'activité, qui, pour certaines activités, fixe des fourchettes horaires, et pour d'autres activités, fixe des forfaits. Ce matin, dans l'atelier sur la médecine, on a parlé de ce problème. Doit-on fixer des forfaits? Doit-on fixer des tranches horaires? Eh bien, vous voyez, pour la santé, puisqu'il y a évidemment une rubrique santé, eh bien, une expertise tout venant en matière médicale, eh bien, on prévoit un forfait qui pourrait être autour de 700 euros. Par contre, dès lors que l'on tombe dans des expertises médicales complexes, notamment en matière de responsabilité médicale, eh bien là, on préconise un paiement à l'heure, 125 euros, etc., etc. Et on voit, pour toutes les activités, l'interprétariat, le bâtiment, les arts, la culture, l'agriculture, l'industrie, l'économie et les finances, des propositions. Ce sont des propositions qui sont intéressantes parce qu'elles harmonisent. Je crois déjà que dans nos cours d'appel, il y aurait dans toutes les cours d'appel un barème qui s'applique à l'ensemble des tribunaux de la Cour, ça serait déjà un progrès. Quand on voit qu'au sein d'une même compagnie d'experts, selon que l'on s'adresse à un tribunal à 10 ou 20 kilomètres de distance, les tarifs sont différents et quelquefois notoirement différents. Déjà, au sein d'une cour d'appel, il faut qu'il y ait des barèmes indicatifs, des fourchettes. Il ne s'agit pas d'imposer, puisque chaque affaire est spécifique. Et que chaque expert est en droit de faire valoir sa spécificité, sa notoriété, son expérience, les structures qu'il va mettre à disposition, les équipements qu'il va mettre à disposition pour telle ou telle expertise. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut fixer, il faut indiquer par un certain nombre de barèmes indicatifs. Et vous l'évoquez il y a quelques instants, vous alliez plus loin en appelant à une harmonisation de ces barèmes au niveau national. Car le second étage de la fusée, c'est qu'après qu'une généralisation de ce système de barème indicatif soit adoptée par l'ensemble des cours d'appel, eh bien le second étage, la seconde démarche, consisterait à voir si sur le plan national, on ne pourrait pas donner des barèmes, encore une fois. Dire au juge, ben voilà, dans quel ordre, l'ordre d'idées dans lesquelles les choses se passent. Et j'ai vu avec intérêt il y a quelques instants, quand la province et Paris, en matière comptable, il n'y avait pas d'énormes différences. Parce que là aussi, s'il y a dans certaines matières de très grandes différences peut-être entre Paris et la province, je sais que dans d'autres matières, la différence n'est pas aussi notable. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, il a moins été évoqué, mais il faut le dire aux civils, c'est les retards de règlement qui nous sont imputables à nous, magistrats. Alors, il y a le fonctionnement de nos tribunaux. Là, ce n'est pas un problème de frais de justice. On a de l'argent qui traîne dans les greffes, de l'argent, des provisions qui ont été consignées et pour lesquelles les restitutions connaissent des retards incompréhensibles. Et puis, elles tiennent quelquefois, ces restitutions, elles souffrent de retards incompréhensibles pour des interprétations jurisprudentielles curieuses. Vous savez que certains tribunaux attendent la fin du procès pour régler l'expert. Alors que le rapport ayant été déposé, rien n'impose que l'on attende que la décision soit au fond, soit rendue, quelquefois même à l'issue des délais de voie de recours, pour qu'on se dise, il y a de l'argent, il faut qu'on paye l'expert. Ce sont des retards là qui peuvent être, qui devraient être facilement corrigés. Mais l'autre problème, et on en a peu parlé, c'est la sécurité de la rémunération. Parce que l'expert judiciaire se trouve souvent confronté, soit à la mauvaise volonté de la partie qui doit l'honorer, soit à l'insolvabilité organisée ou inorganisée, mais elle existe souvent, du dit débiteur. Surtout lorsque l'on a attendu la fin du procès pour commencer à s'occuper de la rémunération de l'expert. Et là, je crois que notre Cour de cassation, j'ai beaucoup de respect pour la Cour de cassation, a eu tort dans sa jurisprudence déjà ancienne qui devrait évoluer, de raisonner en termes de faute du service public de la justice pour dire que les experts ne peuvent pas se retourner contre l'État lorsqu'ils sont en face d'un débiteur totalement insolvable. Le service, la responsabilité de l'État en matière de fonctionnement défectueux du service public de la justice, elle existe vis-à-vis du justiciable. Mais vis-à-vis de celui qui est un collaborateur du service public de la justice, ce n'est pas du tout cette notion-là. La meilleure preuve, c'est que le Conseil d'État, dans l'arrêt Aragon de 1967, a dit le contraire de la Cour de cassation. Le Conseil d'État a dit dans l'arrêt Aragon, vous êtes des collaborateurs du service public de la justice, c'est vous, collaborateurs, qui avez la possibilité d'une action récursoire contre l'État lorsque le débiteur est défaillant. Je crois que là, il y a une évolution. Il y a une évolution, et moi je pense que sur le plan législatif, ça là pourrait être réglé. On est en présence de deux jurisprudences tout à fait différentes. Il est anormal que l'expert qui opère au profit d'une juridiction administrative soit assuré qu'en cas d'impécuniosité du débiteur, eh bien, il y aura possibilité d'être rémunéré. Je pense que là, il y a véritablement un problème. Alors, je termine, car malheureusement, les délais sont très brefs. Le pénal, vous avez tout dit. Vous avez rappelé les chiffres. Alors, je sais bien que pour les médecins légistes, aujourd'hui, le problème est moins prégnant, puisque les chiffres ne concernent que ceux qui viennent en second rideau, puisque les premiers rideaux, si l'on peut dire, font partie de ces nouvelles structures de médecine légale, puisque maintenant la réforme de la médecine légale fait que les médecins experts qui interviennent sur les plateaux techniques ne sont pas rémunérés directement, vous le savez, mais il est indécent pour tous ceux qui, d'entre nous, magistrats, ont assisté à des autopsies, notamment des autopsies de corps putréfiés, de voir que l'État honore un médecin docteur en médecine de 230 euros pour pratiquer pendant de longs quarts d'heure l'autopsie d'un corps putréfié. Nous avons les uns et les autres, il y a des anciens parquetiers sans doute dans la salle, quelques souvenirs qui nous montrent que véritablement nous avons une image un peu, nous sommes un peu pingres. Et puis vous savez que là aussi, c'était un arrêt du 17 janvier 2012, lorsqu'une cour d'appel a estimé qu'un psychiatre avait eu un dossier particulièrement difficile et avait osé demander non pas les 277 euros mais 450 euros compte tenu de la difficulté. Cette cour d'appel avait dit qu'en effet, vu la complexité du dossier, on pouvait dépasser. Il y a eu une sanction immédiate de la Cour de cassation. C'est tarifé, circulé, il n'y a rien à voir. Et pour le cas où on l'oublierait, la chancellerie s'est empressée quelques semaines plus tard de nous adresser une belle circulaire nous disant « halte là, vous ne devez pas dépasser d'un centime tout ce qui est tarifé ». Alors, je terminerai par quand même quelques ouvertures. La première ouverture, c'est quand même le décret du 26 août 2013. Nous avons eu un décret du 26 août 2013 qui enfin a définitivement indiqué que les indemnités de déplacement allaient être réglées. Car pensons à certains experts psychiatres qui, dans certains ressorts, n'étaient pas remboursés de leurs frais de déplacement. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Les choses sont claires aujourd'hui. Les experts au pénal sont indemnisés comme vous, comme tous les magistrats, comme tous les agents de l'État, personnel civil de l'État. Il y a un certain nombre d'indemnités. Alors c'est vrai, c'est le 0,35 du kilomètre, que nous ayons une deux chevaux ou une Mercedes. Plus exactement, la deux chevaux, c'est encore moins. C'est la Mercedes qui est à 0,35. Nous avons 15,25 euros par repas. Nous avons 48 euros la nuit en province et 60 euros la nuit à Paris. C'est vous dire que chaque semaine que je passe à Paris au CSM, ça me coûte une certaine somme d'argent, car je mets au défi quiconque de trouver, sauf un bouge du Faubourg Saint-Denis, une chambre à 60 euros, peux-tu déjeuner compris. Donc vous soyez rassurés, mesdames et messieurs les experts, vous êtes exactement dans la même situation que tous les magistrats, quel que soit leur rang hiérarchique. Deuxième petite avancée, on a augmenté un petit peu l'indemnité de comparution des experts devant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. Elle est passée à 40,77 euros. Et puis, il y a quand même eu une avancée. C'est la compétence générale donnée aux tribunaux de grande instance pour traiter l'ensemble des mémoires émanant tant des conseils de prud'hommes que des tribunaux d'instance. Ça, c'est un progrès. C'est un progrès car on va quand même vers une centralisation entre les mains d'un juge qui devrait de plus en plus se spécialiser du règlement de ses mémoires. Ce juge, et on l'a très bien dit, qui ne doit pas être une arlésienne, qui ne doit pas être aux abonnés absents, qui doit avoir un téléphone et qui doit avoir une boîte mail. Et qui doit avoir une boîte mail que l'on peut interroger à tout moment, parce que l'expert, il a besoin, à un certain et en permanence, d'avoir quelqu'un qui peut répondre à ses interrogations. Ça, je pense que ce magistrat centralisateur est tout à fait utile. Et ce magistrat centralisateur, c'est une autre disposition du décret, a fait disparaître la compétence exclusive qui existait pour les juges d'instruction, les juges des enfants, les juges d'application des peines, de viser les mémoires relatives aux opérations qu'ils avaient ordonnées. On avait beaucoup de retard dans les tribunaux. On nous disait, il y a des mémoires qui se promènent. Il fallait partir un peu à l'aveuglette. Pas à l'aveuglette, mais il fallait partir à la pêche. Est-il dans le cabinet du juge d'instruction, en attente de traitement? Est-il dans le cabinet du juge des enfants? Les experts, aujourd'hui, n'auront plus à faire cela. Ils adressent directement, depuis le décret du 26 août 2013, au magistrat en charge du service des expertises leur mémoire, et c'est lui qui peut les traiter sans avoir à passer par le magistrat qui a prescrit. Puis il y a eu l'arrêté du 16 décembre 2013 qui a relevé de 460 à 1500 euros les frais de justice soumis à la procédure de certification. Ça aussi, ça devrait être de nature à accélérer. Jusqu'à 1500 euros maintenant, on n'a plus à certifier. Et puis il y a le dernier décret, vous l'avez évoqué. C'est le décret du 7 mai dernier, relatif à la dématérialisation. C'est un très grand progrès qui s'annonce, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de papier. C'est-à-dire qu'un portail Internet va être ouvert à l'ensemble des prestataires, c'est-à-dire à vous-même experts, et que c'est par voie dématérialisée que vous allez présenter votre facture. C'est par voie dématérialisée que vous allez adresser les éléments de votre facture. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, j'aurais aimé le faire sur les factures qui doivent être vraiment faites en deux parties, les frais et débours et les honoraires. Plus la facture est claire, mieux cela vaut. J'aurais pu encore employer quelques temps à le dire. Ce portail Internet devrait faciliter les choses. Alors, depuis le début mai dernier, l'opération est en expérimentation dans les cours d'appel de Colmar, de Metz et de Rennes. Il y a 3 cours d'appel qui, depuis un mois, même pas, sont en train d'expérimenter ce nouveau système, qui devrait être de nature à accélérer considérablement les choses. Malheureusement, on ne peut pas tondre un œuf, et les tribunaux ne peuvent vous donner que ce qu'ils peuvent vous donner, c'est-à-dire dans la limite de leur abondement. Ce n'est pas nous qui disposons des fonds que nous alloue l'administration centrale. Et nous sommes aujourd'hui dans une crise des frais de justice absolument terrible. Les frais de justice en France, c'est 477 millions d'euros en 2013, 477 millions d'euros, plus 14,9% par rapport à 2012. Vous allez me dire, on est dépensiers, mais pas du tout. C'est qu'en permanence, le législateur prévoit dans des textes l'obligation d'un certain nombre d'investigation, expertale, en matière d'expertise psychiatrique pour tous les problèmes de sortie de prison, là, on en a parlé, tout le problème des empreintes génétiques, etc., etc., et tout ça, nous n'avons pas le choix. Nous devons, bien évidemment, recourir à l'expert. Ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, les frais de justice sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la crise que vous connaissez, les retards qui vous sont imposés, et je sais que certains experts, dans certaines matières, eh bien, sont dans le rouge. J'ai vu à Lyon des experts me disent, je suis dans le rouge au niveau de ma banque, parce que je fais 70 ou 80% de mon activité, j'ai 70 ou 90% de mon activité au service de la justice, ben comme je ne suis pas payé, je suis dans le rouge. C'est peut-être trivial de dire ça à la fin d'un colloque, de parler de monnaie à ce niveau-là. Mais c'est un problème. Alors moi, je termine en disant, ne croyez pas que les magistrats sont tout à fait indifférents à cela. Parce qu'encore une fois, nous savons bien qu'il ne faut pas faire d'expertise pour l'argent. Malheur à celui qui demanderait être inscrit comme expert, soit pour sa carte de visite, dans l'espoir qu'il n'aura jamais d'expertise, mais que son statut social sera amélioré parce qu'il est expert sur sa carte de visite, et malheur aussi à celui qui voudrait s'inscrire comme expert de justice pour arrondir ses fins de mois ou assurer un minimum de revenus. Non, je ne pense pas qu'on est expert de justice pour se faire de l'argent. On est expert de justice parce qu'on a un citoyen qui aime la justice et qui veut lui apporter la science dont il dispose. Ce citoyen, il est tout à fait en droit d'exiger la légitime et la juste rémunération de sa prestation, parce que c'est son travail, et pendant qu'il fait ça, il n'a pas d'autre activité. C'est pour cette raison que nous sommes très conscients du problème que cela pose aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est bon que des réunions comme celle-là nous permettent d'échanger. Et c'est pour cette raison-là que nous ne pouvons pas nous contenter de la situation actuelle et que nous devons en permanence progresser. Ce qui fait que si vous comprenez nos préoccupations, nous, magistrats, nous devons comprendre les autres et progresser dans cet espace que vous évoquiez remarquablement en 2012 à la Cour de cassation.